nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Michaël Ducousseau.
Bonjour, Canal Académie vous amène aujourd'hui en voyage sur les traces des grands explorateurs contemporains avec leurs compagnons de route, leurs confidents par l'image, le photographe Xavier Desmier.
Bonjour.
Alors, nos auditeurs ne vous connaissent peut-être pas, mais ils ont sans doute déjà vu vos travaux. Vous avez collaboré avec le commandant Cousteau de l'Académie française ou encore avec Jean-Louis Etienne lors des expéditions Antarctica et Clipperton. Vous travaillez depuis de nombreuses années avec des magazines comme Thalassa ou National Geographic. Et vos travaux ont été récompensés par le prestigieux prix World Press, catégorie environnement, en 1998. Vous venez dernièrement de remporter un nouveau prix, celui du concours Photo par Nature, organisé en juin 2011 par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et par Fox Channel. Vous y aviez présenté un projet de reportage photo dans les Sundarbans, intitulé « La vie dans les Sundarbans, plus grande mangrove du monde, Delta du Gange ». Alors présentez-nous un peu ce projet, qu'est-ce que les Sundarbans ?
Les Sundarbans, en fait, c'est vrai que c'est une mangrove. Les mangroves représentent à peu près 70% des côtes, je dirais, tropicales humides. Et dans le delta du Gange se trouvent donc ces Sundarbans qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et puis qui sont la plus grande mangrove du monde d'un seul tenant, en fait, qui est à cheval sur les deux tiers au Bangladesh et un tiers en Inde. Et ça fait partie pour moi d'un grand projet que je mène sur les mangroves, enfin sur le côté humain des mangroves, c'est-à-dire sur les gens qui vivent dans les mangroves. Plein de gens ne savent pas qu'il y a des gens qui y vivent, notamment. J'ai commencé en Guinée-Conakry, où il y a 300 000 personnes qui vivent là-bas. Et là, donc, c'est un peu la suite de mon projet. Donc j'ai décidé de faire les Sundarbans pour le prix du muséum.
Je rappelle au passage pour nos auditeurs que la particularité des mangroves, forêt principalement composée de palétuviers, c'est d'être situé sur les littoraux tropicaux, dans des zones où l'eau peut présenter un taux de salinité allant parfois jusqu'à 97%. C'est ce qui fait la richesse de cet écosystème, mais c'est aussi sa faiblesse, puisqu'il subit de plein fouet les dégâts causés par l'activité humaine, et notamment les effets de la pollution, ce qui perturbe dangereusement l'équilibre nécessaire à sa préservation. Donc on l'a vu, vos travaux sont axés sur l'environnement, sur la protection de la nature. Quel est le bilan global que vous pouvez dresser sur l'état de l'environnement depuis le début de votre carrière, en fait, vous qui l'avez vu évoluer ?
J'aimerais bien être positif. En fait, je suis plutôt très, très négatif par rapport à ça. Et je pense, en plus que ça, que l'environnement est en train de disparaître à petit feu, puisqu'on suppose que pratiquement 50% de la biodiversité terrestre risque d'avoir disparu d'ici le milieu du siècle ou la fin du siècle. Donc, qui est en gros la sixième extinction terrestre provoquée essentiellement par l'homme et d'une façon très rapide, quoi. Et c'est vrai que moi, en voyageant, j'ai eu la chance d'aller dans des endroits intacts, pratiquement intact. Et en fait, on voit toujours qu'il y a toujours quand même des traces de l'homme qui sont anciennes ou nouvelles. Et sur les zones où l'homme vit, en tout cas l'homme moderne, les choses disparaissent très très vite. Que ce soit d'ailleurs en France, même s'il y a des choses, des points où ça va mieux, on espère aller encore mieux dans les années à venir. Mais je pense pas qu'on prenne la bonne voie.
C'est justement là l'intérêt de faire ce travail sur les mangroves ?
Alors l'intérêt de faire déjà de la photographie, pour moi c'est comme une écriture en fait, c'est montrer un peu... Alors il y a soit montrer les mauvaises choses, soit montrer les belles choses pour que les gens apprennent à aimer, et pour donc mieux protéger par la suite. C'est un peu plus mon créneau que de montrer que les choses négatives. C'est-à-dire que je ne suis pas reporter de guerre, je ne suis pas reporter de... Maintenant, sur les mangroves, j'ai choisi ce sujet-là parce que c'est vrai que c'est... une des forêts les plus mal connues d'abord. C'est en même temps une des forêts les plus exposées à l'homme, exposées en même temps au changement climatique, c'est-à-dire à la montée des eaux, et qui est en fait une forêt qui est très très importante. C'est une des forêts où la masse carbone est la plus riche, hein, autant que les forêts tropicales, et où en même temps où vivent énormément de populations qui risquent, avec le changement climatique, de devoir quitter ces mangroves et donc avoir des grands mouvements de population. Et c'est vrai que de sauver ces mangroves-là permet de stabiliser ces populations-là, où elles peuvent y vivre très bien, en fait, et en même temps sauvegarder une masse carbone, une masse de biodiversité. Mon projet, il est vraiment là-dessus. Plus que montrer le côté biodiversité de la mangrove, c'est montrer vraiment l'humain qui vit avec cette mangrove.
Alors, les Franciliens ont peut-être pu découvrir vos photos dernièrement, lors de l'exposition « Des forêts et des hommes ». qui se tient actuellement au Palais Royal. Monsieur Artus Bertrand de l'Académie des Beaux-Arts y participe aussi. Est-ce qu'en participant à des événements comme celui-ci, organisé à l'occasion de l'année internationale des forêts, décrétée par les Nations Unies, vous vous considérez comme un artiste, comme un photographe engagé ?
Le mot est peut-être un peu fort, enfin j'aimerais bien, enfin j'espère l'être. C'est vrai que ce serait une vocation d'être vraiment engagé. Après, je pense que c'est plus une petite goutte d'eau que j'amène à ma manière. Et je pense qu'une petite goutte d'eau, plus une petite goutte d'eau, ça finit par faire des rivières et des fleuves. Je n'ai pas les moyens de faire des grandes actions. Donc, par contre, ce sont des, je pense par l'image, de faire connaître. J'espère pouvoir faire changer les choses. C'est vrai que vraiment, quand on voit le travail de Yann Arthus Bertrand par rapport à ça, bon, avec peut-être des moyens plus importants, mais au niveau de la France, a fait changer pas mal les mentalités. Donc, il faut se souvenir aussi qu'une photo, c'est plus fort qu'un film. Par exemple, c'est après la publication d'une photo que la guerre du Vietnam s'est arrêtée, que les Américains ont arrêté la guerre du Vietnam. Donc une photographie peut être, vraiment avoir un impact très très fort.
Avec votre petite goutte d'eau, comme vous dites, vous avez réussi à atteindre des rives qui vous permettent de financer vos projets, des mécènes ou des organismes qui auraient eu envie de participer un peu plus à votre aventure ?
C'est pas évident. J'ai eu, quand je suis parti au Groenland, notamment, ce sont des zones qui sont éloignées, donc le montage d'un reportage là-bas est toujours cher. Moi, j'avais eu les Champagnes Mum qui m'avaient financé une grosse partie en fait, du reportage. Après, c'est plus maintenant de plus en plus par justement des prix, des choses comme ça. La presse a de plus en plus de mal à financer des gros sujets. Donc c'est vrai qu'on est toujours en recherche de partenaires. Alors soit c'est moi directement, soit c'est par l'intermédiaire. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec le Muséum et ProNature International sur la biodiversité. Donc j'étais parti à Santo en 2006, au Vanuatu. Fait Mozambique, Madagascar l'année dernière. Où là, ce sont des grosses missions scientifiques avec des gros sponsors. En fait, ces sponsors-là ont besoin d'une visibilité par l'image. Et donc, c'est là-dessus où j'interviens, en fait.
Dernièrement, vous avez été récompensé pour un prix de photo en présentant votre travail sur les mangroves et sur les forêts. Mais cela n'a pas été votre seul centre d'intérêt durant votre carrière. Celle-ci commence en effet lorsqu'à 21 ans, vous intégrez l'équipe Cousteau. Et c'est à ce moment que vous associez votre première passion, le monde sous-marin, à la photographie. Pourquoi ce besoin de passer à l'image ?
En fait, l'image, tout gamin, je rêvais animalier. C'était l'animalier qui me passionnait et je ne savais pas trop comment m'intéresser à l'animalier jusqu'à un moment où j'ai rencontré un ami qui, lui, faisait de la photographie animalière. Et c'est là où ma passion de la photo est arrivée. J'avais, à l'époque, j'avais 11 ans. En parallèle, j'avais vu Jojo le Mérou à l'âge de 8 ans, une des parties du Monde du silence de Cousteau, où là, j'ai voulu être plongeur. Rentrer dans l'équipe Cousteau. Donc en fait, c'était trois passions que j'ai alliées, c'est-à-dire le monde sous-marin, le côté photo et le monde animalier. Et en parallèle, j'ai mené ces trois vues-là, même s'il y a des choses qui ont changé depuis, puisque avant, je ne faisais pas du tout de photos humaines. Par le monde animalier, en fait, ça m'a permis de comprendre le monde humain et aimer le monde humain et aimer photographier le monde humain.
Et votre expérience avec l'équipe Cousteau, l'équipe au bonnet rouge, ça a dû être formidable, c'est formateur, j'imagine, pour toute une carrière.
Oui, c'est formateur. Enfin, rentrer dans l'équipe Cousteau, déjà, c'est un grand rêve. C'était quand même un personnage, je dirais presque mythique, ou qui est devenu presque mythique. Ça a été une énorme expérience humaine, déjà. Et c'est vrai qu'en même temps, j'ai passé 2 ans en Amazonie, qui était un rêve d'enfance aussi. Ça m'a permis de passer, par exemple, 6 mois chez les Yanomamis, dans le nord du Brésil, sud du Venezuela. Ça m'a permis d'accéder aussi au monde de l'image film, puisque après avoir quitté l'équipe Cousteau en 85, j'ai fait une quarantaine de tournages en tant que caméraman sous-marin pour Thalassa, même si après, en fait, j'ai délaissé la caméra pour l'appareil photo, parce que je trouve justement que la photographie offre plus de liberté et fixe plus les choses. Après, c'est peut-être financièrement, ça n'a peut-être pas été le meilleur moyen, mais voilà, c'est vrai que je préfère la photographie à la caméra.
Vous avez accompagné les plus grands explorateurs contemporains, nous venons de parler du commandant Cousteau, mais vous êtes aussi parti en expédition avec Jean-Louis Etienne.
Oui, avec Jean-Louis Etienne, c'est vrai que c'est monter des grandes expéditions, c'est jamais facile. C'est long, ça coûte cher. Quand on a, 25, 30 ans, c'est pas forcément évident. Donc c'est vrai que je les ai suivis plusieurs fois. En parallèle, je commençais à faire des sujets plus personnels. J'ai passé pas mal de temps, notamment sur l'Aïdan Sea, où je voulais faire un espèce de bilan photographique pour moi, et en même temps, sur un environnement qui m'était cher, c'est-à-dire montrer que l'homme était capable de rendre la vie, d'allier l'homme et l'environnement. Et je trouvais que le Light and Sight est un bel exemple, donc j'ai travaillé pas mal là-dessus. Et puis petit à petit, monter mes propres projets, notamment dans l'archipel Crozet sur les Orques, avec l'aide en fait, d'une boîte de production qui s'appelle Saint-Thomas Productions, qui m'a permis d'aller là-bas sur place et de faire les premières images d'orques sous l'eau.
Ça a dû être une expérience formidable, puisque vraiment presque hostile.
Complètement hostile. Je suis parti 4 mois, j'étais avec Luc Jacquet, réalisateur de La Marche de l'Empereur. On était tous les deux, on était parachutés pendant 4 mois sur une plage à Crozet, avec juste une liaison radio avec la base scientifique qui était de l'autre côté de l'île. Et c'est vrai que ça a été une des très belles expériences photographiques pour ma part. J'y suis retourné 4 ans après, mais là uniquement en bateau pour suivre les orques au large, toujours avec la même boîte de prom. J'aime bien l'immersion en fait dans un milieu, et pour ça il faut du temps. Et malheureusement le temps c'est aussi souvent de l'argent. Mais c'est vrai que par exemple sur le projet Mangrove que j'ai, je veux faire plusieurs sites dans le monde, différent, et d'avoir du temps pour le faire. C'est rester avec les gens, notamment sur la Guinée, je suis resté longtemps, j'ai passé 6 mois en fait. Je me suis fait accepter par l'ethnie Baga qui vit vraiment en mangrove, et ça, ça se fait pas du jour au lendemain.
Et entre deux expéditions, vous prenez quand même le temps de faire d'autres travaux, vous collaborez avec Paris Match, avec VSD, ou encore dernièrement avec le Figaro Magazine, pour lequel vous êtes parti sur les traces du couple princier britannique. Alors qu'est-ce qui est le plus dur pour un photographe ? Partir traquer des animaux sauvages dans un environnement hostile ou se confronter au monde de la jet set?
Pour un photographe, je ne sais pas. Pour moi, en tout cas, c'est vrai que je me sens plus à l'aise à faire des photos dans des milieux hostiles, d'environnement hostile, en fait. Que ce soit mettre à l'eau avec des orques, même pour la première fois. Alors, ce n'est pas forcément toujours facile, mais je me sens plus à l'aise, c'est vrai, que sur certains autres sujets, que ce soit derrière. Voilà, il y a un reportage sur de la déco, des choses comme ça, sur un sujet tourisme. Et en même temps, je trouve que c'est un espèce de challenge pour moi. C'est-à-dire que c'est là le problème d'un photographe professionnel, c'est qu'on lui demande quelque chose d'arriver de toute façon, malgré les conditions, malgré je dirais, le climat ou autre, de ramener la bonne image ou les bonnes images.
Avec la vie d'aventurier que vous avez eue, puisque vous avez traversé à peu près tous les continents, quels sont justement les challenges qu'il vous reste encore ? Y a-t-il un endroit qui vous est cher ou que vous n'avez pas encore parcouru et qui ferait l'objet d'un prochain reportage ?
Oh, des endroits, je dirais, il y en a des milliers. C'est surtout les endroits où j'ai jamais été. Après, c'est vrai, non, je dirais que j'ai 3 grands pôles, on va dire, d'intérêt à l'heure actuelle. C'est ce sujet sur les mangroves que je vais faire sur peut-être 2, 3, 4, 5 ans, suivant les moyens en fait que j'aurai. Après, je suis toujours tout ce qui est sur biodiversité scientifique, justement, avec Pronature International et le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui sont engagés depuis maintenant 4-5 ans à visiter les points rouges, les points chauds de la planète, hein, qui ne sont pas connus scientifiquement en fait, la plupart du temps, sur la biodiversité. Et donc, normalement, en 2012, je devrais aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec eux. Et puis aussi, j'ai toujours été très attiré par le polaire. Et j'ai été, la première fois d'ailleurs, avec Jean-Louis Etienne en Antarctique. Après, j'ai fait pas mal de choses. J'ai été au Canada, à Crozet et autres. Et c'est vrai que le monde polaire m'a toujours attiré et continue à m'attirer. Donc je continue, et notamment avec une association qui s'appelle le Cercle Polaire, dont fait partie Michel Rocard, qui est l'ambassadeur des pôles pour la France. C'est lui qui a mis en place le traité de Madrid sur la conservation de l'Antarctique. Et ils sont en train d'essayer de mettre en place un traité pour l'Arctique, où pour l'instant, c'est un vide juridique. Donc j'essaye de les suivre aussi. Là, j'attends d'ailleurs, je pars peut-être vendredi au Canada, mais je ne sais pas encore. Et peut-être en mois d'août au Groenland, mais voilà, je serai sans doute la veille ou 2 jours avant.
Autant de belles expositions en perspective, donc.
On va essayer, hein.
Avant de nous quitter, je rappelle à nos auditeurs qu'ils pourront retrouver vos photos lors de l'exposition Des forêts et des hommes, actuellement exposée sur la place du Palais Royal, que vous avez une exposition prévue à l'automne sur la mangrove de Guinée, au festival de Montiander, et qu'ils pourront visiter le résultat de vos travaux dans les Sundarbans en juin prochain au Jardin des Plantes de Paris. Merci, Monsieur Demille. Au revoir.
Au revoir.